Nous allons passer une heure ou presque en compagnie de Joseph Kessel dans une rediffusion de ce numéro de votre magazine dominical. Grâce à notre invité, Olivier Weber, qui vient de lui consacrer un dictionnaire dans lequel il écrit notamment ceci à propos de Jeff, de cette légende du journalisme et de la littérature. Romancier, reporter, correspondant de guerre, aviateur, combattant, résistant, académicien, quel roman que ses vies, certes, mais quelle fragilité aussi cache-t-elle en leur sein. Loin de la mythomanie inventive de Malraux ou de la dramaturgie soignée de Hemingway, Kessel a plongé dans une mélancolie fertile pour se délivrer de ses drames et offrir une œuvre polyphonique sur l'interprétation du monde. Joseph Kessel nous a quittés il y a 41 ans et nous allons évoquer son parcours si éclatant et son œuvre riche de 80 livres. Voici donc une rediffusion de ce numéro d'Idée, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio et l'application RFI Pure Radio. Bonjour Olivier Weber.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes écrivain, ancien correspondant de guerre, grand reporter, lauréat du prix Albert Londres, auteur de nombreux livres, on en a parlé de quelques-uns ces dernières années ensemble, dans Une semaine d'actualité ou dans Idée. Vous êtes président du prix Joseph Kessel, donc vous êtes bien placé pour parler de Joseph Kessel. On va donc l'évoquer pendant cette émission, mais je vous propose tout de suite, d'aller dans une librairie célèbre à Paris pour quiconque aime les voyage, l'aventure. C'est la librairie Ulysse qui porte bien son nom au cœur de Paris, pas très loin de Notre-Dame d'ailleurs. Écoutez ce reportage de Ninog Louis qui évoque avec la directrice de cette librairie, Joseph Kessel.
Franchir la porte de cette librairie, c'est déjà voyager un peu. L'espace exigu est rempli de milliers d'ouvrages qui grimpent jusqu'au plafond. C'est ici, dans cette atmosphère feutrée, que Catherine Domain travaille depuis 48 ans. La libraire propose plusieurs ouvrages de Joseph Kessel.
Il y a Les Cavaliers en Afghanistan, il y a La Steppe Rouge sur la Russie, il y a L'Équipage sur l'aviation, parce que j'ai un rayon aviation. Il a écrit aussi sur la mer, sur tous les pays où il est allé, La Vallée des Rubis en Birmanie, La Piste Fauve au Kenya.
Joseph Kessel, l'écrivain, le voyageur, le journaliste, il reste une référence en matière de récits de voyage, mais plus vraiment un guide pour les globe-trotteurs qui poussent la porte de la librairie de Catherine Domain.
Ils ne s'inspirent pas de ses ouvrages pour leur voyage, parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, le Yémen, l'Afghanistan, l'aviation, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il est devenu classique, voilà.
Un classique qu'on s'efforce ici de mettre entre toutes les mains, surtout celle de la nouvelle génération de voyageurs.
Quand ils sont très jeunes, souvent ils ne savent pas. Mais c'est à moi de montrer, c'est à moi d'enseigner. Il faut l'avoir lu, parce que c'est un type extraordinaire qui était un journaliste, reporter de guerre, actif, combattant, magnifique quoi.
Et Catherine Domain attend les curieux dans sa librairie Ulysse à Paris pour leur donner le goût du voyage et de Joseph Kessel.
Donc Olivier Weber, il faut donner le goût aux plus jeunes, le goût de lire Joseph Kessel. À tout prix, d'urgence.
Oui, absolument. J'en vois d'autres, hein, des jeunes voyageurs qui partent en Asie centrale ou ailleurs en Afghanistan. Pour eux, ce sont plutôt les humanitaires qui lisent encore Kessel. Mais je dirais qu'il y a deux Kessel. Il y a Kessel, le journaliste, le grand reporter. Deuxièmement, l'écrivain du roman, etc. Et c'est ça qui m'intéresse, cette frontière un peu ténue, un peu floue entre la littérature de fiction d'une part, puis deuxièmement, le témoignage, le reportage. Et Kessel fait partie de ces écrivains reporters qui ont su abolir ces frontières, comme Jack London, comme Hemingway, comme Malaparte, comme Vassili Grossman et tant d'autres. Romain Gary, qui a été lui plutôt grand reporter dans la fin de sa vie, mais c'est pareil, c'est ce mélange entre le documenté, le réel, le factuel, et deuxièmement la fiction. Et je crois que l'imaginaire et l'imaginé réenchantent le monde et retraduisent en fait la réalité du monde.
En tout cas, son ouverture d'esprit, sa curiosité et le mot qu'il aimait bien, sa fraternité, nous font du bien encore aujourd'hui.
Oui, oui, absolument, parce que c'est ce regard fraternel et en fait une réédition de ses différents livres et différents reportages un peu réécrits par lui-même sous le titre « Témoin parmi les hommes ». Je trouve ça très beau parce que c'est ça ce qu'on est quand on est écrivain, reporter ou journaliste ou grand reporter tout simplement, nous sommes des témoins et on passe en quelque sorte le relais, le flambeau. On va voir ce qui se passe à l'autre bout du monde et on essaie de le montrer aux autres. Et je trouve ça très beau. Et dans le roman, c'est un peu la même chose.
Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'il a effectivement mélangé un peu les faits, les comptes rendus, les reportages et les fruits de son imagination.
Oui.
D'ailleurs, ça lui a été souvent reproché.
Oui, je dirais que... D'abord, c'était quelqu'un qui était boulimique d'écriture. Donc, quand il rentrait de voyage, il faisait déjà une série pour François ou un autre journal qui faisait à peu près l'équivalent de la moitié d'un livre d'aujourd'hui, voire les trois quarts. Deuxièmement, il en faisait un récit de voyage ou un témoignage pour une maison d'édition. Et troisièmement, un roman. Et alors ça, c'est parce que, voilà, il était boulimique d'écriture, un peu comme Jack London. Mais deuxièmement, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui avait ras-le-bol de la guerre, comme Hemingway d'ailleurs. Ce sont deux personnes qui ont vu la guerre de trop près, qui l'ont faite en 14-18. Hemingway était brancardier sur le front italien, et lui, Kessel, était jeune aviateur, hein, de moins de 20 ans à 18 ans, donc il s'est engagé dans les airs au-dessus de la Marne et des Ardennes, et ils ont vu la mort de très près. Et tout d'un coup, Kessel se dit, mais voilà, le reportage ne suffit plus à expliquer la guerre, l'absurdité de la guerre. Et donc là, on passe au roman allégrément, et voilà, pour encore une fois, il n'y a pas de césure entre les deux.
Nous allons évoquer donc Jeff, on l'appelait Jeff, hein, c'est pour ça que j'ai utilisé ce surnom.
Oui, parce que Kessel n'aimait pas Joseph, c'est pour ça.
Voilà, donc il préférait qu'on l'appelle Jeff. Et on va l'écouter à plusieurs reprises, Olivier Weber. Je vous propose tout de suite de le retrouver dans une interview où il évoque sa naissance et son amour aussi de la France.
Je suis né en Argentine, dans un pays assez perdu, et comme il y a eu une inondation la semaine où je suis né, mes parents n'ont pas pu bouger de cette colonie juive où mon père était médecin pendant 10 jours, et pour ne pas avoir d'amende, on m'a déclaré officiellement 10 jours après ma naissance. De sorte que, né en vérité le 31 janvier, officiellement je suis né le 10 février 1898. Je suis en France depuis l'âge de 10 ans, ce qui fait, hélas pas pour mon amour pour la France, mais pour mon âge, un demi-siècle, et je me suis toujours considéré comme français. J'ai d'ailleurs fait 2 guerres, et comme tout le monde, enfin, qui était dans ma condition et à mon âge, j'ai fait mes études en France. Ma langue véritable, la seule que j'écrive à peu près correctement, est le français, et vraiment, je suis français tout à fait.
Donc ça, c'est très intéressant de d'écouter Joseph Kessel parler de cela, parce que on comprend tout de suite son amour des voyages, du monde. Il était amoureux de la France, mais il venait d'ailleurs.
Oui, absolument. Donc il venait d'Argentine, mais surtout de parents russes, oui. Juifs russes. On parlait le russe à l'époque dans cette colonie d'Argentine, hein, qui était la colonie du baron Hirsch, et dont le père, finalement, de Kessel, Samuel Kessel, le médecin, était assez proche. Et il va, lui, Joseph Kessel, prendre la langue française comme patrie. Il est resté longtemps apatride, hein, il est devenu citoyen français dans les années 1920, et il devient citoyen de langue, en quelque sorte, par amour de la langue française, avant d'être citoyen de passeport et de nationalité. Et ça, c'est très beau, parce qu'il abandonne le russe, qu'il parle extrêmement bien, évidemment, jusqu'à la fin de sa vie, qui est une belle langue également, une belle langue de littérature, de Pushkin à Gogol, etc., de Dostoïevski, que lui a lu des dizaines de fois, pour mieux s'imprégner de la langue française. Et je trouve ça très beau, parce qu'on sent quand même dans... chez certains de ces écrivains slaves qui ont pris le français et quelquefois l'anglais, comme Conrad, comme langue d'adoption, on sent qu'il y a tout d'un coup une réécriture de la langue d'appartenance, et je trouve ça très beau chez Kessel, effectivement.
Il est arrivé en 1908 en France, à Nice, et ça me fait penser à Romain Gary, qui 20 ans plus tard, avec sa mère, va débarquer également à Nice.
Oui, absolument, alors beaucoup de similitudes entre les deux. Romain Gary, c'était un petit peu le petit frère de Kessel, et il considérait Kessel presque comme un père, un mentor en littérature, et ils ont fait les études dans le même lycée, le lycée Masséna, qui s'appelait le lycée de Nice à l'époque. Ils ont fréquenté les mêmes plages sur la promenade des Anglais, et rêvé sur cet horizon, au-delà de la promenade des Anglais et des Russes, surtout à l'époque, parce que l'horizon est à la fois extrêmement ouvert, c'est la mer, et extrêmement fermé, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et ça a ouvert leur imaginaire. Oui, ils sont très proches l'un de l'autre, d'autant plus que Romain Gary devient aviateur pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il rejoint en quelque sorte, en 1943, Kessel qui vient d'arriver à Londres. Alors c'est très drôle d'ailleurs, parce que Kessel va voir De Gaulle, et il dit à De Gaulle, écoutez, moi je me suis déjà battu pendant la Première Guerre mondiale comme aviateur, et De Gaulle lui dit, mais évidemment, moi j'ai lu L'Équipage, le premier roman sur l'aviation moderne, mais vous allez rester là. Comment ça, je vais rester là? Oui, vous n'allez pas vous battre, vous allez m'écrire un roman. Et le roman sur la résistance, ça donne L'Armée des Ombres. Alors, et il dit la même chose à Gary, et Gary dit, non, moi je vais aller me battre. Et il dit, non, il n'y a que les bons qui se font tuer. C'est assez drôle. C'était un peu péjoratif la part de De Gaulle.
Et Romain Gary est effectivement allé se battre à bord d'avion. On aura l'occasion d'en reparler dans une future émission. Et il se destinait au théâtre, a priori.
Oui, absolument, comme son petit frère Lazare, qu'il l'appelait Lola, qui était donc membre sociétaire de la Comédie Française. Et en fait, Lazare s'est suicidé. Le jour d'ailleurs où lui et le grand frère Joseph avaient déjeuné ensemble sur le boulevard Saint-Michel, l'après-midi, Joseph Kessel, qui travaillait à 20 ans et quelques dans ce journal Des Débats, qui était un grand journal de l'époque, un hebdomadaire, il apprend par la police vers 5 heures l'après-midi que son petit frère vient de se suicider. Il dit, mais c'est pas possible, je viens de déjeuner avec lui. Et en fait, il faut comprendre toute l'œuvre de Kessel par ce prisme-là de la culpabilité du survivant. Il ne s'est jamais remis d'avoir laissé le petit frère se suicider. C'est ça le drame, évidemment, de ceux qui restent par rapport à un proche qui s'est suicidé.
C'est ce que vous appelez, Olivier Weber, sa mélancolie fertile.
Tout à fait, une mélancolie fertile. Et c'est pour ça que pour moi, c'est moins un écrivain de l'aventure et du baroud qu'un écrivain du drame humain, du tourment, de l'âme et de ses tréfonds, comme Conrad l'a été également. Et l'aventure pour ce genre d'écrivain n'est qu'un prétexte, n'est qu'un alibi. Ce qui est vraiment important, c'est l'aventure du cœur, de l'âme et des émotions. Donc, Kessel plonge là-dedans à la Dostoïevski. Finalement, pour moi, c'est un écrivain dostoïevskien.
Alors, en 1914-1918, il a été engagé. Il a connu donc cette première guerre mondiale. Et en novembre 1918, il lui est arrivé quelque chose d'incroyable, une proposition de mission d'un genre particulier. Je vous propose de retrouver Joseph Kessel. Il nous explique ça, évidemment, très bien.
Vers la fin d'octobre 18, c'est-à-dire comme les hostilités approchaient de leur fin, on a fait passer dans les escadrilles un avis disant qu'on demandait des volontaires pour constituer une escadrille en Extrême-Orient, c'est-à-dire en Sibérie. Le but était de rejoindre les forces tchèques qui tenaient alors le Transsibérien et avec elles de constituer un front contre les Allemands qui se trouvaient en Russie. C'était de la haute et lointaine stratégie, mais elle était complètement périmée au moment où on a fait passer cet avis. Néanmoins, avec la routine militaire, on a recruté des volontaires et comme j'avais très envie de voyager et par-dessus le marché, je parlais le russe, j'ai demandé à faire partie de cette escadrille d'observation. On a accepté ma demande et avec les délais inévitables, 2 ou 3 semaines, nous sommes partis. Et nous sommes partis le jour même de l'armistice, le 11 novembre 18, de Brest, alors que les cloches sonnaient à toute volée. Je dois dire que nous étions un peu tristes de rater ce jour, mais la suite nous a récompensé largement de cette frustration. Nous sommes partis sur un transport militaire américain qui s'appelait le Président Grant, et 7 jours après, nous apercevions à l'aube la Statue de la Liberté. Or, nous étions les premiers soldats à arriver d'Europe après la victoire. Par-dessus le marché, nous étions français. C'est vraiment un peu triste de penser à ce que ce mot, cette notion signifiait pour le monde entier à l'époque, en voyant l'état de seconde zone où nous sommes arrivés maintenant. Vraiment, la France était, nous croyons qu'elle était le pays le plus fort du monde. On s'est aperçu par la suite qu'il n'en était pas ainsi, mais en tout cas, elle était le pays le plus prestigieux du monde. Et les aviateurs, en outre, étaient des bêtes rares à l'époque. Et quand nous sommes arrivés au port, Il y avait une foule énorme pour nous recevoir. On nous a conduits directement à l'hôtel de ville et nous avons été l'objet de ces manifestations que tout le monde a vues depuis au cinéma, les confettis qui pleuvent des fenêtres, les fanfares qui jouent, les discours, etc. Nous sommes restés à New York pendant 48 heures dans une espèce de brouillard parce qu'on allait de cérémonie en cérémonie et d'enthousiasme en enthousiasme.
Et tout cela, Olivier Weber, vous qui venez d'écrire donc ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, tout cela à l'âge de 20 ans.
À l'âge de 20 ans, donc premier tour du monde hein, finalement, et puis cette deuxième guerre incroyable, introuvable en fait, au fin fond de la Sibérie avec les Russes blancs contre les Russes de Lénine, les Soviets, hein, avec cette guerre introuvable parce que finalement bah, l'armée des Cosaques et l'armée de Kolchak, le général anti-Lénine, était très très loin. Et donc lui arrive dans une gare, en fait il devient chef de gare à Vladivostok pour le ravitaillement des troupes de l'armée blanche anti-communiste. Donc et bah, il fait pas la guerre, donc il passe son temps tous les soirs, c'est ce qu'il fait tenir, parce qu'il fait quand même très froid, on est en plein hiver, 1918, donc il passe tous les soirs dans une boîte de nuit qui s'appelle l'Aquarium, qui est sûrement la plus grande boîte de nuit au monde, qui est un bordel en fait, avec des filles, des officiers de tous les pays du monde, des Tchèques, des Américains, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce souvenir-là qu'il a gardé de ce retour en Russie. Il n'y est jamais plus retourné depuis. Il n'a jamais pu avoir le visa soviétique.
Et il va raconter cet épisode dans deux livres, Les Temps Sauvages et puis Les Dames de Californie, oui. Qui sont effectivement deux chefs-d'œuvre dans la liste des livres qu'il a écrits. Et c'est à partir de cette époque, et très précisément 1920, qu'il va vraiment commencer à faire des reportages. 1920, c'est l'Irlande.
Oui, c'est l'Irlande, c'est son premier reportage.
La révolution irlandaise,
l'indépendance. Tout à fait, absolument. Et en fait, des premiers reportages, c'est en fait l'anniversaire, la commémoration de la victoire du 11 novembre 1919. Donc c'est le premier défilé sur les Champs-Élysées avec Geoffrey Pétain. Et voilà, donc tout d'un coup, il se retrouve, lui, à fêter cela, à écrire à toute vitesse pour le journal des débats. Mais le grand reportage à l'étranger, le premier, donc c'est l'Irlande. Effectivement, il prend fait et cause, avec un peu de distance quand même, mais on sent qu'il a de l'empathie, voire de la sympathie pour les révolutionnaires irlandais qui se battent contre la couronne britannique. Et donc, c'est son premier reportage. C'est un peu compliqué parce qu'il n'arrive pas à avoir des contacts. Et tout d'un coup, tout se dénoue avec le Sinn Féin, qui est le parti révolutionnaire irlandais, donc le parti de l'indépendance. Et voilà, c'est un reportage qui l'a marqué. Et on sent déjà le talent sous la patte de cet écrivain en devenir. On sent qu'il est plus qu'un reporter. On sent qu'il est fait, en fait, pour écrire des portraits, pour décrire les sensations, les émotions et pour décrire le monde.
Et il va être, c'est une période très prolixe qui va s'ouvrir entre les deux guerres pour lui. Il va écrire beaucoup de ses grands livres, La Steppe Rouge.
Oui.
Par exemple, la Russie, les Cosaques.
Voilà. Alors, oui, c'est son premier livre, un recueil de nouvelles, en fait, qui traduisent finalement ce qui se passe par récits interposés qu'il a récoltés donc dans les pays baltes, en Lituanie, en Lettonie, il raconte en fait et en Estonie, il raconte ce que lui ont dit les réfugiés russes soviétiques, donc lui parlant le russe, mais il est très déçu de ne pouvoir rentrer à Saint-Pétersbourg, à Leningrad ou à Moscou, et donc il décrit mais d'une manière très crue, très véridique, à travers des témoignages, ils ont fait des contes, des petits romans en quelque sorte, ce qui se passe à l'intérieur de l'Union soviétique. Alors évidemment, c'est un anticommuniste, et en même temps, il raconte par exemple l'histoire d'une petite fille qui est obligée de se prostituer, qui tue l'un de ses macros, et qui au tribunal dit « je veux mourir, c'est pas un problème, mais rendez-moi ma poupée ». Et on comprend tout à travers voilà ce genre de nouvelles. Et on sent qu'il y a un talent très cru que Gaston Gallimard, d'ailleurs, détecte en disant « Je vous prends comme auteur dans la maison Gallimard ». Et moi, c'est ce que j'ai essayé de retraduire dans ce livre, hein, Le Dictionnaire amoureux. C'est pas une hagiographie, c'est pas une biographie non plus. C'est un récit de ce qu'a été Kessel, mais aussi de ce que représente l'actualité de Kessel aujourd'hui à travers le reportage, le roman, le récit d'aventure. Et puis, grosso modo, comment on peut essayer de réenchanter le monde à travers la littérature.
Il y a aussi donc effectivement la littérature, de reportage ou pas. En 1928, par exemple, il écrit « Belle de jour ».
Oui, alors.
Alors ça, c'est un livre célèbre qui va encore devenir plus célèbre, puisqu'un film de Buñuel, qui plus est, va être tourné.
Tout à fait, un film incroyable avec Catherine Deneuve. Et donc, effectivement, le livre a fait scandale dans les années 30 parce qu'il raconte l'histoire de la femme d'un chirurgien dentiste du 16e arrondissement, quartier très chic à Paris, qui le matin est femme de notable et qui l'après-midi se prostitue dans un bordel. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette double vie? Pourquoi, etc. Puis elle recherche le plaisir de manière presque sadique et masochiste à travers des expériences sexuelles. Et c'est quand même assez étrange. Et on apprend en fait qu'elle était elle-même victime de viol lorsqu'elle était enfant. Et tout s'explique à travers ça. Et c'est très violent parce que, imaginez-vous, on est dans les années 30, c'est quand même très très pudique, même si on est dans les années folles de l'entre-deux-guerres, et on sort de cette autre folie qui était la grande boucherie, la der des der, qui était la guerre de 14-18, mais quand même, la société française était pudique. Et lui, paf, il met les pieds dans le plat, il raconte l'histoire de cette dérive. Et je pense qu'à travers ce passage, il décrit son amour pour les femmes. Et il arrive à toucher la sensibilité, la fragilité de certaines femmes.
C'est ça qu'on oublie souvent à propos de Joseph Kessel. On dit oui, la fraternité entre hommes, entre mecs, entre, bon, comment on dirait aujourd'hui, mais il a fait de très beaux portraits de femmes. Il y a ce livre-là, et il y a aussi La passante du sans-souci.
Oui, absolument, aussi là, tout à fait.
Qui a été aussi adapté au cinéma.
Adapté au cinéma avec Romy Schneider et qui est le premier livre qui dénonce, pareil, dans les années 30, l'existence de camps de concentration. C'est une histoire qui se passe à Paris d'une chanteuse allemande, donc incarnée au cinéma par Romy Schneider, et qui tombe de Charybde en Scylla, et qui finit pratiquement par elle se prostitue pour essayer de sauver son mari, qui est resté dans un camp de concentration pour politique, donc en Allemagne, et qui héberge en même temps un jeune enfant juif, le petit Max. Et Kessel a été en reportage dans les années 30, il a vu Hitler, il a vu le parti nazi émerger, il a fait des papiers, personne ne l'écoutait, et il dit « je vais faire ça à travers un roman ». Et c'est très fort parce que c'est un peu le portrait en creux de l'Allemagne qui se nazifie, hein, qui se dirige vers le nazisme. Et donc, à ma connaissance, c'est le premier roman qui dénonce ces camps de concentration. Et quel portrait de femme, effectivement, à travers cette chanteuse allemande. Et voilà, donc lui, Kessel, c'est un grand cavaleur. C'est un séducteur, mais un séducteur malgré lui, parce qu'il disait lui-même « je suis incapable de séduire ». Mais il voulait convaincre, etc. Et puis il y avait une sorte de séduction intellectuelle. Mais, en même temps, c'était un homme à femme, on va dire, mais qui les aimait tellement qu'il les respectait aussi énormément.
Et un joyeux luron aussi, Olivier Weber. Hein,
oui.
L'alcool, les cabarets russes, la musique tzigane.
La vodka. Les verres qu'on brise par derrière, ouais. Et d'ailleurs qu'il mâchait d'ailleurs de temps à autre. Puis le médecin un jour lui a dit, non, arrêtez de mâcher du verre de vodka, c'est quand même pas très très bon pour votre estomac. Et qui était aussi adepte de la bagarre, d'où d'ailleurs quelques titres, quelques entrées, parce que c'est un dictionnaire à entrée, ça va de la lettre A à la lettre Z, très riche, Zanzibar. Oui. Et il y a à la lettre B, bouffeur de verre, il y a aussi blessure de barre et blessure de guerre, il y a cassage de gueule à la lettre C, donc c'est quelqu'un qui se battait un peu moins à la fin de sa vie, mais qui aimait ça, qui avait le goût du baroud, un peu comme Hemingway, mais en même temps qui cachait justement une fragilité et une grande sensibilité.
Et il y a donc, il faut s'y arrêter avant de plonger dans la Seconde Guerre mondiale, il faut s'arrêter aussi sur l'aviation, qui l'a beaucoup inspiré. Il a connu Saint-Ex, il a connu Jean Mermoz, et il a fait une biographie qui est toujours une biographie de référence de Mermoz.
Tout à fait, moi j'ai lu ça gamin, c'est un des premiers Kessel que j'ai pu lire enfant. J'ai beaucoup lu, en fait, quand j'avais 8, 9 ans et 10 ans, dans des internats, des orphelinats, etc.
Je dis même dans le dictionnaire que il a causé des insomnies.
Oui, absolument.
Il a empêché de dormir.
J'ai joué aux billes, j'achetais avec ce que je gagnais aux billes des livres, et je lisais Goethe, Cervantes, et Kessel et Jack London. Et donc, lui, Kessel, effectivement, par sa biographie de Mermoz, l'a remis au goût du jour. Lui qui a disparu, Mermoz, jeune pilote à 36 ans, en traversant l'Atlantique Sud. Et c'était un fan de l'aviation. Pourquoi? Parce que à moins de 20 ans, donc il était pilote pendant la guerre, et à l'époque, il y avait un pilote sur deux qui revenait. Il y avait beaucoup de casse, comme on disait, beaucoup de pertes. Et en même temps, c'était la grande fraternité de sa vie, comme Romain Gary d'ailleurs. C'était une confrérie incroyable que celle des pilotes, des officiers, des mécaniciens dans les bases aériennes, qu'on fêtait dignement lorsqu'il revenait, évidemment, à la vodka ou au vin. Et c'était l'une des grandes affaires de sa vie. Donc L'Équipage, qui est un roman qui part en 1923, il a 25 ans, 250 000 exemplaires, gros succès de l'après-guerre. C'est le premier roman sur l'aviation moderne. Mais en même temps, c'est une histoire de femme. Ce sont deux pilotes qui ne savent pas qu'ils partagent la même femme. Ils le découvrent après, donc c'est une histoire d'amitié trahie en quelque sorte. Et c'est une histoire qui lui est arrivée.
En 1939, Joseph Kessel, l'amoureux de la France, est mobilisé. C'est la déclaration de la guerre. Il a donc 41 ans et il n'hésite pas longtemps.
Il n'hésite pas, non. Il y va, effectivement. Et donc, il couvre d'abord la drôle de guerre, et puis après, il rentre dans la résistance. Il se cache sur la Côte d'Azur. Et puis, à un moment, la résistance lui dit, dans le réseau Carte, écoute, va-t'en, tire-toi, tu es repéré, tu es juif, la Gestapo arrive. Et il ne savait pas que l'une de ses maîtresses, qui s'appelait Germaine Sablon, la sœur de Jean Sablon, et Germaine Sablon était une grande chanteuse.
Qu'on écoutera dans un instant.
Qu'elle était, et qu'elle était aussi membre du réseau Carte. Il ne se l'était pas dit, en fait. Et lui, donc, Kessel, ben, il s'en va par l'Espagne, il arrive à Londres. C'est comme ça qu'il va écrire cette magnifique chanson qui s'appelle Le Chant des Partisans.
Qu'on va écouter dans un instant, évidemment.
Tout à fait, ah, ben, d'accord, avec Maurice Druon, son neveu. Et puis qu'il va écrire cette ode à la résistance de manière très courageuse, qui est un roman qui s'appelle L'Armée des Ombres. Alors, il a quand même fait des actes assez héroïques. Il est allé chercher des espions britanniques qui sortaient de felouques, donc de petits voiliers ou de sous-marins au large de l'Estérel et au large de Cannes. C'est extrêmement dangereux. Il a convoyé d'ailleurs des fausses cartes d'identité et apparemment des armes ainsi qu'une agente, une femme britannique vers Vichy. Il fallait faire Vichy, le siège quand même du gouvernement pro-allemand de Pétain. Et donc voilà, et avant de rejoindre Londres, donc il s'était vraiment livré à quelques actes héroïques de la résistance.
Je recommande ce livre, L'Armée des Ombres, écrit en 1943, qui est un livre extraordinaire. C'est peut-être le livre sur la résistance, et il faut aussi voir l'adaptation de ce livre par Jean-Pierre Melville au cinéma.
Par Jean-Pierre Melville, absolument, de son vrai nom Grumbach, qui a beaucoup aimé le livre de Kessel.
Melville, lui aussi résistant.
Ancien résistant, absolument. Ouais. Et Kessel, imaginez-vous, il est en 43, donc il a 45 ans. De Gaulle lui dit, ben non, vous n'allez pas vous battre, vous allez rester là, vous allez faire un livre sur la résistance. Et en 43, lui, Kessel fait pas du tout un livre manichéen en disant voilà la résistance est toute blanche et l'armée d'occupation est toute noire. Il en fait un livre où il y a des trahisons, il y a des déloyautés, il y a des coups de jarnac, etc., etc. Et c'était très courageux parce que voilà, ça veut dire que tous les hommes sont humains. Malheureusement, la nature humaine est aussi traîtresse par nature. Il raconte que quelques résistants ont été sacrifiés, alors sous-entendu par les services secrets britanniques pour faire passer des infos aux Allemands. Donc en 43, c'était quand même sacrément gonflé. Et c'est tout son talent.
Et puis, il y a Olivier Weber, Le Chant des Partisans. Écoutons Joseph Kessel parler de l'élaboration de cette idée de faire cette chanson, cet hymne à la résistance.
L'initiative vient d'Emmanuel d'Astier, qui était alors chef du groupe Libération Sud, que je connaissais depuis longtemps. Et un jour, on parlait de chansons et je disais, un peuple qui n'a pas de chansons est un peuple qui ne peut pas se battre. Et elle était idiote, si vous voulez, la Madelon. La chanson était bête, mais c'était quelque chose qui liait les gens. Et alors, il était complètement d'accord. Il m'a dit, écoute, ce qui serait bien, c'est de, pour les maquis, pour la résistance, d'avoir une chanson que on diffuserait naturellement des postes semés dans l'Angleterre, mais qu'on ferait passer pour une chanson anonyme des résistants. L'idée m'a emballé, Maurice aussi, et le lendemain ou le surlendemain, on s'est mis d'accord sur un air qui avait été écrit par une Russe d'origine qui s'appelait Anna Marley, qui jouait de la guitare et qui chantait des chansons pour les troupes anglaises et alliées en Grande-Bretagne. L'air m'avait plu, et sur cet air, avec une facilité vraiment dérisoire, parce qu'on était porté par le sujet, nous avons écrit les paroles du Chant des Partisans, croyant de toute absolue bonne foi que c'était fini, que personne n'en parlerait plus, que peut-être quelqu'un le répéterait en France. Et quand nous sommes revenus et que j'ai entendu, je le revois, la place de la Madeleine, un chanteur ambulant chantant cette chanson et vendant les feuilles, ça avait été imprimé je ne sais par qui, vraiment ça a été un choc.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers des paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades! Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici,
battue, nous marche et nous tue, nous crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Le chant des partisans interprété par Germaine Sablon, dont on parlait à l'instant, pleine de ferveur, c'est véritablement le chant de la résistance, et c'est une des œuvres majeures de Joseph Kessel. C'est pas un livre, c'est une chanson, mais c'est une œuvre majeure.
Une œuvre
avec
majeure,
Maurice Druon, Anna Marly.
Tout à fait, parce que ça a évidemment incarné tout cet esprit de résistance. Les tracts ont été parachutés au-dessus des maquis. En sifflotant, les résistants pouvaient échanger des informations sur des ondes. Hein. C'était une sorte de code sans les paroles. Donc vraiment, c'était un deuxième hymne, en fait, après la Marseillaise, et qu'on a chanté très longtemps après, et toujours un peu maintenant, y compris par les jeunes et les moins jeunes dans les écoles. Donc oui, c'était une œuvre, parce que tout d'un coup, ça s'est fait d'ailleurs sur un bout de table, dans une auberge au sud de Londres, puis après sur un bout de gazon avec Maurice Druon. Et c'était joué au piano, comme ça, au petit bonheur à la chance. Donc vraiment, c'était... quelque chose qui a infusé dans la tête de Kessel depuis plusieurs mois.
Joseph Kessel, qui était l'oncle de Maurice Druon, et il faut le noter. La guerre, donc, s'est terminée. Joseph Kessel est revenu à son premier métier, dire qu'il n'avait jamais véritablement quitté. Enfin, sa passion, en tout cas, l'écriture et les reportages.
Oui, l'écriture et le reportage, ou le reportage et l'écriture, on ne sait jamais dans quel sens il faut le prendre. Et moi, évidemment, je suis un adepte aussi de ce genre, oui, hein, écrivain voyageur ou autre, absolument.
Vous marchez sur ces traces hein, depuis oui, parce que des, années,
quand,
des années.
Hein. Quand on écrit des romans, même des romans d'amour ou historiques, moi j'ai besoin de partir au bout du monde simplement pour voir les gens, pour essayer de ramener cette rumeur du monde, ou pour ramener quelquefois la parole de victime, ou pas simplement. Voilà, j'ai besoin d'être dans ce tambour qui tourne, hein, qui est donc tout ce qui se passe sur l'échelle planétaire, voir les gens simplement. Et Kessel, justement, avait besoin aussi de partir. Et puis à un moment, il était là, vers 50 ans, il dit tiens, c'est vrai que les guerres, ça recommence un peu toujours de la même manière, j'en ai assez, donc il se lance dans un documentaire qui va faire La Passe du Diable, que je suis en train d'ailleurs de faire restaurer, qui est un vieux film. Alors c'est drôle parce que comme auteur de... Comme caméraman, en fait, comme réalisateur, il avait un jeune caméraman qui sortait des prisons, pardon, du Viet Minh au Vietnam, c'était Pierre Schoendorfer. Mmh. Et Pierre Schoendorfer fait ses débuts en Afghanistan avec La Passe du Diable, qui est un film tourné avec Joseph Kessel. Donc voilà, mais quand même, Kessel est resté, est constamment revenu à ses premières amours, le reportage qui lui permet d'en tirer des romans, des histoires, des portraits, y compris des portraits de voyous, de brigands, quoi.
On va revenir à l'Afghanistan dans un instant, mais vous allez trop vite, Olivier. Je voudrais qu'on parle également d'Israël.
Oui.
Il a la particularité, vous commencez le dictionnaire avec ça, d'avoir le visa numéro 1.
Oui. Oui, absolument. Alors,
pour entrer en Israël.
Le dictionnaire amoureux commence pas par la lettre A, mais par le chiffre 001, parce qu'il a, en 1948, pris un avion avec des marchands d'armes juifs français pour essayer d'aider Israël qui vient de proclamer son indépendance. Et le jour premier jour de l'indépendance, il y a donc une guerre israélo-arabe qui est déclenchée. Et lui arrive non pas sur l'aéroport de Tel Aviv qui est bombardé, mais sur celui de Haïfa au nord, la troisième ville d'Israël aujourd'hui, après Tel Aviv et Jérusalem. Et au bout de la puce de la Tirite surgissent une petite guérite des jeunes Israéliens, donc, puisque l'État d'Israël est tout neuf, un peu bronzé en short, qui lui disent « Bienvenue, vous êtes le premier visiteur, visa numéro 001 ». Et en fait, Kessel était venu une vingtaine d'années plus tôt, en 1926, en Israël, enfin à l'époque en Palestine, voir les colonies de peuplement juif, avec comme guide, c'est pas n'importe qui, c'était le leader de l'organisation sioniste mondiale, c'était Chaim Weizmann, qui était un chimiste anglais, mais d'origine biélorusse, et qui allait devenir le premier président de l'État d'Israël 20 ans plus tard. Donc voilà, il a eu ce guide-là, et en même temps, je pense que Kessel aujourd'hui a un regard très particulier aujourd'hui sur la situation d'Israël et les réfugiés palestiniens.
Son Israël, l'Israël de l'époque, c'est l'Israël des conquérants, des pionniers, des kibbutz, c'était
des
un tout autre Israël qu'aujourd'hui. On va continuer, effectivement, je note aussi que Kessel a suivi le procès Pétain et le procès de Nuremberg aussi, dans l'après-guerre, et venons-en à l'Afghanistan, qui est une de vos passions aussi, Olivier. Et je vous propose de l'écouter, une nouvelle fois, Joseph Kessel, parler de ce qu'il appelle son coup de foudre pour l'Afghanistan.
L'Afghanistan, ça a été le coup de foudre.
Je ne sais pas pourquoi. Enfin, évidemment, il y a la beauté physique du pays, il y a l'Hindou Kush qui va jusqu'au Pamir, il y a la steppe. Peut-être est-ce ça la steppe de mon enfance, la steppe qui commençait à Orenbourg et qui va jusqu'à l'Afghanistan, tout le Turkestan. Est-ce le fait que, là, vraiment, les mœurs n'ont pas bougé depuis 500-600 ans et qu'il n'y a pas non plus cette terrible pauvreté qui de plus en plus m'est insupportable. Quand j'étais plus jeune, ça faisait partie du pittoresque, mais quand à Hong Kong on voit les enfants qui meurent de faim, quand on voit ces bidonvilles, quand on voit cette affreuse exploitation de l'homme par l'homme, ou en Inde, Calcutta, enfin, là, l'Afghanistan est un pays sous-peuplé, il est aussi grand que la France, et il a 3 fois ou 4 fois moins d'habitants. Et puis alors, il y a la noblesse des nomades, il y a la noblesse des guerriers, il y a le jeu extraordinaire du Bouskashi qu'aura apporté le horde de Gengis Khan. Tout ça a fait que j'ai été pris complètement.
On vient de les entendre passer, les cavaliers, Olivier Weber.
Oui, oui, absolument. Quel formidable tambour du monde, là aussi. Oui, c'est une passion pour Kessel.
Ben, vous
pour
écrivez
aussi.
Un autre pays d'adoption et la dernière grande aventure de Joseph Kessel.
Oui, la dernière grande aventure, parce que donc il y est retourné quelques fois, mais c'était presque le roman de sa vie avec les cavaliers, puisque ses livres, il mettait à peu près 15 jours ou 3 semaines pour les écrire, quelquefois un mois. Et là, il a mis pratiquement 7 ans, on va dire 6 ans pour écrire les cavaliers.
Le livre est sorti en 1967.
Tout à fait. Et c'était... un des grands romans de sa vie avec le tour du malheur en 4 volumes. Et bien voilà, parce que je crois qu'on reste rarement indifférent à ce pays. On peut l'aimer à l'excès, c'est mon cas, on peut le détester. On est rarement au milieu, et pour moi aussi c'était une grande découverte. D'ailleurs je raconte dans ce livre, à la lettre C, le cuisinier afghan, comment lorsque je vivais avec les talibans pour écrire un livre sur eux, le faucon afghan, et pour tourner un film, ce qui était totalement interdit par les talibans au pouvoir, comment dans un village à 3000 mètres d'altitude, Gardan Diwal, qui était un village fortifié le long d'une falaise avec un précipice en bas, j'étais suivi par des flics et des indicateurs donc talibans, donc je pouvais pas faire grand chose. Comment quelqu'un vient à ma rencontre et me parle en français? Et en fait, c'est le cuisinier afghan de Kessel, mis à disposition à l'époque, bien longtemps avant, par l'ambassadeur de France à Kaboul. Et mon indicateur taliban, qui parlait toutes les langues sauf le français, me dit « Mais qu'est-ce qu'il t'a dit là ?» Et j'ai dit « Ça te regarde pas ». Et j'avais un moyen de pression sur mon indicateur taliban, parce que je savais qu'il fumait du hashish. Et j'ai dit « Si tu me dénonces, parce que je parle français, je te dénonce que tu fumes du hashish ». Et j'ai pu faire cette interview comme ça, à 3000 mètres d'altitude, sur le sommet d'un village improbable, en haut d'un précipice, et c'était le cuisinier afghan de Kessel.
Alors, le livre Les Cavaliers est à lire, évidemment, avec ce fabuleux jeu du Bouskashi, dont parle Kessel, et il y a aussi le film, donc, à voir.
Oui, le film, absolument, de Franco Oppenheimer, qui est en fait un film avec Omar Sharif. Et voilà, donc c'est un film de fiction, mais auparavant, lui, avant même d'écrire le livre Les Cavaliers, Kessel donc fait ce documentaire fiction, oui, en quelque sorte, à 50 ans, qui s'appelle 50 ans et quelques, à 60 ans même pratiquement, qui s'appelle La Passe du Diable, avec Per Schöndorfer. Et c'est un documentaire dont il a une vague idée. Quand il arrive à Kaboul, il a pas d'argent, pas de scénario. Alors c'est assez drôle, parce que heureusement il y a quelqu'un qui a lu ses livres en français, c'est le roi d'Afghanistan, Zahir Shah, que j'ai pu rencontrer en exil à Rome à plusieurs reprises, et qui adorait Kessel, et qui lui dit « Mais mon ami, je vous ouvre toutes les portes du pays, vous voulez combien de chèvres ? 1000 ? Allez, 1000 chèvres. Vous voulez combien de cavaliers ? Des centaines ? Allez, des centaines de cavaliers, etc. » Et le film La Passe du Diable a pu se faire ainsi. Et ça a été les prémices du roman Les Cavaliers et du film américain ensuite.
Alors une autre passion de Kessel, c'est l'Afrique, comme pour Romain Gary d'ailleurs, qui a écrit sur l'Afrique, avec c'est une série de reportages au Kenya dans les années 50, et un livre qui demeure toujours un succès, c'est Le Lion.
Le Lion, alors Le Lion, c'est quelque chose d'incroyable, parce que c'est un ovni par rapport aux autres livres, les romans et les romans d'aventure et les récits de voyage de Kessel. C'est un roman sur une histoire d'amour entre une jeune fille, Patricia, qui est la fille du gardien de la réserve, et un lion. Et moi j'ai ma petite idée, je pense qu'il y avait une vieille rivalité entre lui et Hemingway, depuis la guerre d'Espagne, que lui, Kessel, avait un peu raté. Il est arrivé trop tard à Barcelone et à Madrid, il voit d'ailleurs à l'hôtel Colonne attablé au bar, accoudé au bar, Mallory Hemingway, qui se gausse un petit peu de lui. Et bref, c'était du genre,
donc t'arrives là, on un est peu dans les années 30, hein,
les années 30, absolument. Et 20 ans plus tard, quand Hemingway écrit Le vieil homme et la mer, lui, Kessel, a l'idée d'écrire Le lion. C'est magnifique parce que c'est une ode à la nature, c'est une ode à l'amitié entre une jeune fille et un lion, le lion malheureusement qui aura une destinée un peu funeste, je ne dis pas la fin du livre, mais en tout cas c'est aussi voilà un roman écologique comme Gary effectivement que vous citiez ait pu faire les Racines du ciel.
C'est à cause de sa fin d'ailleurs qu'on hésite à le faire lire par des enfants et pourtant c'est un très beau livre pour les enfants. Ben, je vous propose d'en écouter un extrait lu par Sébastien Gédor. C'est précisément le moment où le héros rencontre la petite fille et son lion, la petite fille dont Patricia. Et son lion.
Glissant et trébuchant, je gravis la pente, me raccrochais aux arbustes, écartais la haie d'épineux avec des mains lardées de ronces et sur lesquelles le sang perlait. Au-delà du mur végétal, il y avait un ample espace d'herbes rases. Sur le seuil de cette savane, un seul arbre s'élevait. Il n'était pas très haut, mais de son tronc noueux et trapu partaient comme les rayons d'une roue de longues, fortes et denses branches qui formaient un parasol géant. Dans son ombre, la tête tournée de mon côté, un lion était couché sur le flanc. Un lion dans toute la force terrible de l'espèce et dans sa robe superbe. Le flot de la crinière se répandait sur le mufle allongé contre le sol. Et entre les pattes de devant, énormes, qui jouaient à sortir et à rentrer leurs griffes, je vis Patricia. Son dos était serré contre le poitrail du grand fauve. Son cou se trouvait à portée de la gueule entrouverte. Une de ses mains fourrageait dans la monstrueuse toison. King le bien-nommé, King le roi, telle fut ma première pensée. Cela montre combien, en cet instant, j'étais mal gardé par la raison et même par l'instinct. Le lion releva la tête et gronda. Il m'avait vu. Une étrange torpeur amollissait mes réflexes. Mais sa queue balaya l'air immobile et vint claquer comme une lanière de fouet contre son flanc. Alors je cessais de trembler. La peur vulgaire, la peur misérable avait contracté chacun de mes muscles. J'aperçus enfin, et dans le temps d'une seule clarté intérieure, toute la vérité. Patricia était folle et m'avait donné sa folie.
Le lion, donc, de Joseph Kessel, qui nous donne cet extrait l'occasion de parler du style de Joseph Kessel.
Oui, alors c'est un style assez polyphonique et qui peut être très varié, mais c'est quand même un style assez direct et qui va au cœur des choses, j'allais dire au cœur des émotions, qui fait bien sûr une grande description des paysages. Et c'est important encore une fois comme alibi, comme décor, comme environnement, mais le plus important c'est l'émotion et le sentiment. Il y a presque tous les péchés capitaux, il y a aussi la culpabilité. Et c'est pour ça qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans un roman sur la condition humaine, je veux dire, pour reprendre un titre de Malraux. Et voilà, c'est là où l'impression que les 80 livres de Kessel, qui pour certains se ressemblent et d'autres pas du tout, comme Le Lion, effectivement, permettent d'expliquer ce qu'est l'homme, sa destinée, son tragique et son sens de l'absurde, et son amour aussi.
L'aventurier est entré à l'Académie française en 1962,
oui.
Donc, la consécration.
Oui, absolument, les la honneurs. Consécration. Alors, pour la petite histoire, c'est drôle parce que, évidemment, il y a beaucoup d'amis au sein du Cénacle, sous la coupole, donc, qui lui ont demandé de venir, comme Marcel Achard, comme Pagnol, Cocteau, et puis bien sûr François Mauriac. Et puis beaucoup d'ennemis qui n'en voulaient pas. Vous savez ce qu'il a fait, Kessel? Il a demandé avis à certains de ses autres amis. C'était qui la pègre? Il a demandé à des truands de Paris de savoir si c'était bien de rentrer à l'Académie française. Et les truands lui ont dit, mais évidemment, vas-y, accours. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui a besoin de reconnaissance, qui aimait la France. On pourrait dire, presque comme Romain Gary, que aucune goutte de sang ne coulait dans ses veines, mais la France même était dans son corps, était dans ses veines. Et donc voilà, pour lui, c'était vraiment quelque chose de très important et une grande reconnaissance.
Quel roman que ma vie, s'exclamait Napoléon. Là, je vous cite à l'article roman. Kessel aurait pu tout mettre au pluriel, tant ses vies auront été nombreuses et aventureuses.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui a été grand reporter, qui a été académicien, qui a été écrivain, aviateur, résistant, combattant, etc. Donc mille vies en une. Et c'est quelqu'un qui n'aimait la vie que sous l'angle de la densité. Il disait, il faut vivre la vie intensément, comme Jacques Lennon disait, je préfère être une météore que m'éteindre lentement, etc. etc. Et voilà, Kessel était là-dedans, c'était vivre la vie avec intensité.
Les rencontrer, faire des rencontres.
Et rencontrer beaucoup de monde, sans conviction, il ne s'affirmait pas souvent, il n'affichait pas d'idées politiques, il aimait écouter et se laisser convaincre. Il aimait rencontrer aussi beaucoup les femmes.
Oui,
c'est vrai.
Oui. Vous écrivez, Olivier Weber, Kessel nous interpelle avec son questionnement permanent sur l'errance, le voyage, l'antisédentarité, une œuvre vie qui nous parle à tous et nous donne des clés pour apprendre ou réapprendre ce qu'est la liberté. Ça nous fait un bien fou aujourd'hui. Hein. C'est pour ça
oui,
aussi que j'ai voulu qu'on en parle.
Oui, absolument, ça nous fait un bien fou. Alors pour moi, c'est aussi l'occasion d'écrire sur ce qu'est l'écriture de voyage et les styles, les genres, ou le genre qui est celui de l'écrivain voyageur, moi qui me fascine, hein, puisque j'en fais partie. Et je crois qu'on a tous, en tant que lecteur, en tant que public, une pulsion presque nostalgique de nomades. Nous avons été nomades avant d'être sédentaires, on a des muscles, etc., pour pouvoir nous mouvoir, et on n'aime pas rester assis. Je crois qu'on a dans nos sociétés ce sentiment, qui n'est pas du tout un sentiment tragique ou coupable, mais on a ce sentiment de vouloir passer les murailles, de vouloir franchir les frontières. Et quand on a des écrivains qui nous font voir le grand dehors, le grand ailleurs, eh bien, on emprunte leur pas.
Né en 1898, donc, en Argentine, Joseph Kessel nous a quittés en 1979, à un âge relativement jeune, finalement, compte tenu des risques qu'il a rencontrés, de tout ce qu'il a fait.
Oui, il est mort à 81 ans. On peut dire en même temps qu'il y a eu une belle vie, parce que entre boire de la vodka outrance, prendre de tels risques en tant que reporter de guerre, hein, vous savez, c'est un métier extrêmement dangereux et qui reste fascinant, peut-être encore plus aujourd'hui, plus dangereux qu'à l'époque. Malgré les périls, eh bien, il a vécu jusqu'à cet âge-là. Et en même temps, oui, c'est vrai qu'il aurait pu avoir un petit sursis de 10 ans pour nous livrer d'autres chefs-d'œuvre.
Mais est-ce qu'il avait d'autres projets, ou est-ce qu'il s'est un peu comme Romain Gary, il estimait qu'il avait tout dit et qu'il avait...
Alors, c'est une réponse alambiquée que je vais faire, parce que oui et non, il est un petit peu là quand même de tout ce qu'il avait vu. Je pense qu'on a tous en nous, comme on a un capital soleil, on a un capital
curiosité,
stress, et je pense que lui a été extrêmement marqué, comme Jack London qui est mort à 40 ans, marqué par ce qu'il a vu, et donc quelquefois on est fatigué par les drames du monde et par les drames qu'on a pu ressentir, soit directement, soit par empathie. Et en même temps, il avait toujours envie de recréer ce monde, de le réenchanter, de le retraduire. Alors le problème après, c'est la force physique. Pour moi, une séance d'écriture, bon, j'écris tous les jours, c'est un match de boxe. Il faut être en forme physiquement. Si on n'est pas, même si on est assis, on n'a pas l'influx nerveux, mental, on n'a pas cette sorte de libido créatrice. Et je crois que Kessel l'avait moins à la fin de sa vie, comme Jack London ne l'avait plus tellement, et comme Romain Gary ne l'avait plus non plus, qui s'est suicidé à 66 ans. Donc il y a un moment, il faut accepter de passer l'arme à gauche.
Alors selon vous, pour ceux qui ne connaîtraient pas Joseph Kessel, quel pourrait être le livre qu'il pourrait lire pour commencer, parce que vous l'avez rappelé, on en a parlé, il a écrit 80 livres à peu près. Quel est celui qui nous permet d'avoir l'image la plus précise, la plus complète de Joseph Kessel? C'est difficile parce que tous ses livres sont différents.
Alors j'irai simplement, si on va avoir un portrait à peu près complet de cet auteur prolifique, prolixe, polyphonique, ça serait Le Tour du Malheur, qui est un roman vrai, on va dire, qu'il a écrit sur 20 ans en 4 tomes, et d'ailleurs il avait enterré le manuscrit dans le jardin d'une amie, d'une de ses maîtresses dans le Var, avant de partir pour Londres pendant la résistance. Il a retrouvé ça 2 ans après, en déterrant le manuscrit qui n'était pas trop moisi. Mais si on est jeune, il faut lire Le Lion. Et si on aime l'aventure, et si on est jeune et moins jeune, Fortune Carrée. Voilà. Et après, Les Cavaliers. Donc ça fait 4 livres. Mais surtout, Le Tour du Malheur, c'est sûrement l'ouvrage le plus complet, le plus complexe aussi. Un petit peu, qui a eu pour modèle, on va dire, Guerre et Paix de Tolstoï, qui était vraiment le livre qu'il relisait sans cesse à chaque fois qu'il écrivait donc des pages pour Le Tour du Malheur.
Merci Olivier.
Merci à vous.
On a bien compris qu'il faut lire l'œuvre de Joseph Kessel et qu'il faut lire également votre dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, publié chez Plon, qui est un excellent moyen d'entrer dans l'œuvre et dans la vie de cet homme passionnant. Idée réalisée par Vanessa Rovensky, évidemment. La documentation sonore venait de Lina. Vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Nous serons avec l'anthropologue Philippe Descola au Collège de France. Dans quelques secondes, un nouveau point sur l'actualité sur RFI.